Cause à effet, le magazine de l'environnement.
De New York à Monaco, des grands messes de l'environnement au dernier rapport du GIEC, politiques et scientifiques continuent d'ausculter la planète Terre et d'imaginer des solutions dans cette ère de l'anthropocène, processus dévastateur aux causes et aux effets désormais bien identifiés. Et pour nombre de chercheurs, passez les bons mots, il est temps de réagir, de prendre nos responsabilités et de redéfinir notre rapport à la Terre. Il est temps d'apprendre des interactions en cours, de montrer les chantiers, de dépasser les craintes, dans une époque angoissante mais pas désespérante, selon les mots d'un de nos invités. Est-on prêt à concevoir une géopolitique où la Terre serait pensée comme un sujet de politique et non comme un objet ou comme une simple toile de fond des activités humaines? Avec nous pour répondre à ces questions, François Gemaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur des mots cités, justement. Vous êtes chercheur du Fonds national de la recherche scientifique à l'Université de Liège, membre du GIEC, spécialiste de géopolitique de l'environnement, professeur à Sciences Po Paris et à l'Université libre de Bruxelles, co-directeur de l'Observatoire sur le climat et la défense et puis co-auteur donc de l'Atlas de l'Anthropocène, paru aux presses de Sciences Po. Avec nous aussi Marie Carrega, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur environnement de formation, adjointe au secrétaire général de l'ONERC. Alors l'ONERC, c'est l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Vous êtes en charge de l'information sur la réalité du changement climatique, son origine et ses conséquences et la politique nationale d'adaptation au changement climatique. Et on imagine que le dernier rapport du GIEC fut votre priorité cette semaine. Et en seconde partie d'émission, dans l'œil du monde planète, Simon Roger, rédacteur en chef des pages Planète donc du journal Le Monde, nous livrera son choix info de la semaine qui nous transportera en Amazonie. Enfin, l'Escale Verte nous emmènera dans le Vercors à la découverte d'une réserve de vie sauvage de 500 hectares à sauvegarder. Et nous serons avec le naturaliste de terrain, écrivain, dessinateur Marc Giraud. Il est aussi porte-parole de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Bienvenue à tous dans notre magazine de l'environnement sur France Culture, magazine préparé par Anaï Morales, avec l'aide de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. L'émission est toujours réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Audrey Guélil.
Une pierre tombale pour un glacier. Siggi Hökjökull, un glacier islandais de 15 km carrés qui vient de disparaître. C'était il y a quelques jours, une centaine de militants écologistes s'étaient déplacés pour cette commémoration.
Nous voyons partout les différents visages du changement climatique, mais c'est la même crise.
Partout, la nature montre les signes avant-coureurs du réchauffement climatique. Le nouveau rapport des scientifiques du GIEC sur le climat est alarmant. La fonte des glaces au pôle, au Groenland et sur les grandes chaînes montagneuses va provoquer la montée des océans, plus 40 cm prévus à la fin du siècle. Les conséquences sur les populations risquent d'être dramatiques. La hausse du niveau des océans pourrait provoquer 280 millions de réfugiés climatiques. Le secrétaire général de l'ONU est particulièrement inquiet.
Ce réchauffement mêlé à la pollution tue 7 millions de personnes chaque année. Nous sommes dans l'urgence climatique, nous sommes en train de perdre la partie, il faut inverser la tendance.
C'était un reportage diffusé sur France 3 le 30 août dernier et depuis en Suisse, une cérémonie funéraire a eu lieu pour le glacier Lepizol, c'était la semaine dernière, le 22 septembre. François Gemaine, pierre tombale, cérémonie des glaciers qui disparaissent, des gestes qui risquent de devenir fréquents.
De plus en plus fréquent, forcément. Il est certain que les glaciers de montagne, à commencer par les petits glaciers, sont en recul permanent et qu'effectivement, c'est une partie du patrimoine naturel de l'humanité qui disparaît. J'espère juste qu'on mettra pas une pierre tombale pour l'Amazonie complètement bientôt.
On va en parler de l'Amazonie dans l'émission. En tout cas, avec ce constat permanent des causes et des effets de l'anthropocène, il faut peut-être rappeler ce que c'est l'anthropocène parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la définition.
Bien sûr, et j'imagine que pour beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices, ça sera un terme relativement nouveau qu'ils entendront pour la première fois ou pour une des premières fois. Je dirais qu'il y a deux lectures possibles de l'anthropocène. La première lecture, c'est une lecture géologique. de considérer que l'Anthropocène, c'est une période géologique nouvelle dans laquelle nous sommes désormais entrés et ce qui succède à l'Holocène. Donc l'histoire de la Terre est divisée en grandes périodes géologiques, certaines plus connues que d'autres, le Jurassique pour les raisons qu'on connaît. Et donc nous étions jusqu'ici dans l'Holocène et puis les géologues se rendent compte que nous avons tellement transformé les équilibres fondamentaux de la planète que l'empreinte humaine est désormais visible dans les couches sédimentaires de la Terre et que donc les humains sont devenus les principaux facteurs de transformation de la planète, ce qui justifie l'entrée dans cette nouvelle période géologique, littéralement l'âge des humains. Et puis le deuxième niveau de lecture, c'est un niveau de lecture plus politique, qui considère qu'en fait l'Anthropocène nous questionne sur nos rapports à l'environnement et nos rapports à la Terre. Jusqu'ici, on avait toujours séparé la Terre et le monde. On avait considéré que la Terre était l'astre céleste sur lequel nous habitions, régi par les lois des sciences naturelles, et que le monde était en quelque sorte l'organisation sociale et politique des rapports humains sur la Terre. Comme si la Terre était un décor de nos interactions, un simple objet plutôt qu'un sujet. Moi qui travaille à l'université, c'est aussi comme ça qu'on s'était organisé. On a les sciences naturelles d'un côté, les sciences humaines et sociales de l'autre, et il n'est pas trop question de les mélanger. Et donc, de ce fait, on avait un rapport très détaché, au fond, à la Terre. Et ce que l'Anthropocène doit nous amener, je pense, à repenser, c'est notre rapport à la Terre et l'idée qu'en fait, dans l'Anthropocène, nous sommes tous terriens, sans doute, avant d'être habitants d'une nation.
Donc c'est une révolution planétaire que nous sommes en train de vivre.
Et culturelle.
Et culturelle, qui demande de repenser la croissance démographique, économique, et repenser nos modèles. Marie Carrega, donc chaque année, nous consommons plus que la Terre ne peut fournir. C'est le fameux jour du dépassement. Et puis, il y a effectivement ce tableau, cet anthropocène, l'histoire de cette crise et de ces crises que nous vivons interdépendantes, elles s'imbriquent les unes aux autres, les causes et les effets. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, selon vous, pour beaucoup de citoyens, de penser tous ces sujets comme un tout ?
Je pense que la plupart d'entre nous se sentent un peu dépassés justement par le fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas influencer ce système, que tout ça est vraiment au-dessus de nous, alors qu'en fait c'est peut-être probablement une succession de décisions qu'on a prises. Et puis c'est vrai que devant l'ampleur de ce que nous annonce le GIEC, rapport après rapport, on comprend qu'il va falloir mettre en place des transformations vraiment profondes de notre mode de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est notre notion de confort, notre notion de sécurité qui, quelque part, sont mises en challenge. Et ça, tout le monde n'est pas capable de lâcher prise et de se dire « bon, voilà ». J'ai ça pour l'instant, mais il faut vraiment que je commence à réfléchir autrement et peut-être à partager et vraiment changer son mode de vie. Et c'est pas quelque chose de simple pour la plupart des gens.
On va revenir sur le dernier rapport du GIEC, mais parlons tout d'abord de ce dernier sommet du climat à New York qui a de nouveau rassemblé les chefs d'État. Une coopération internationale que vous regardez ou que vous jugez comment, l'un et l'autre, François Gemène ?
Pour le moment, insuffisant. D'abord parce qu'il y a de moins en moins d'appétit pour cette coopération internationale. Un peu partout progressent les nationalismes, les souverainismes, et l'idée finalement qu'on va d'abord s'occuper de son propre jardin, de ses propres émissions, de ses propres pollutions, et qu'au fond, ce qui se passe chez les autres ne va plus nous tracasser et qu'on n'a plus besoin de mécanismes d'action collective. C'est vrai aussi parmi le public où on sent une certaine forme de lassitude par rapport à ces grands messes ou ces grands cirques du climat, comme si ça ne débouchait sur rien, alors qu'il reste absolument nécessaire sur un sujet qui est par nature un sujet global, il faut absolument coordonner l'action des uns et des autres, sinon on n'y arrivera jamais. Et puis, on voit bien qu'il y a aussi un énorme décalage entre les objectifs affichés notamment dans l'accord de Paris ou les objectifs du développement durable et les engagements et les politiques que mettent en place les gouvernements. Aujourd'hui, on a moins de 10% des gouvernements qui respectent les engagements pris lors de l'accord de Paris. On est encore très très loin de l'objectif des 2 degrés. Donc il y a un véritable décalage entre ce qu'on fait chez soi et ce qu'on promet au niveau global. Et je pense que c'est là qu'il y a le vrai problème de la coopération internationale aujourd'hui. C'est que chacun pense ses propres politiques juste à l'intérieur de ses frontières nationales. À mon avis, le nationalisme, c'est un des plus grands dangers pour la gouvernance de l'environnement.
Et que, notamment dans ce concert des voix, il y a eu la sortie des États-Unis de l'accord de Paris en 2017. Pourtant, les États-Unis responsables de 15% des gaz à effet de serre, bon, déforestation au Brésil, la fabrique du doute. Marie Carrega, vous avez le sentiment qu'on risque, comme disait François Gemène, le trop-plein. C'est-à-dire que là, nouveau rapport du GIEC, les sommets, ça s'enchaîne, les jeunes aussi qui organisent leurs propres revendications, manifestations. Est-ce qu'on risque à un moment la lassitude, le trop-plein ou presque l'habitude ?
Alors moi, j'ai vraiment l'impression inverse parce que nous, on suit quand même ces sujets depuis quelques années. Au contraire, nous, on sent un certain allant qu'on n'avait pas forcément connu ces dernières années. On a l'impression qu'on prêche un peu moins dans le désert quand même. Et pour nous, c'est très important d'avoir quelque part cette pression des citoyens, notamment, qui nous demandent de rendre des comptes. Et ça, c'est très important. Et dans l'accord de Paris, voilà, certains pensent qu'on n'est pas assez loin. Je pense que déjà, se fixer cet objectif, c'était déjà extraordinaire, hein, parce qu'il y a quand même 200 pays qui sont signataires de cet accord. Donc, arriver à mettre d'accord tout le monde autour d'un objectif chiffré, c'est déjà pas simple. En soi, c'est déjà une victoire. Et puis, l'accord de Paris prévoit une clause de revoyure, c'est-à-dire que tous les 5 ans, les pays sont invités à proposer plus. C'est pas non plus un énième traité qu'on a signé comme ça pour lequel on va pas regarder ce qui se passe. Il y a des clauses de revoyure. Et puis, au niveau européen, il y a quand même des choses qui se passent. Donc là, pour le coup, on est vraiment extra-national. Et nous, on pousse beaucoup. La France pousse beaucoup. On se sent responsable de l'accord de Paris. On en est dépositaire. Et donc, nous, on pousse vraiment pour que ça se fasse. Et du coup, on a fait en face, nous, notre projet de loi énergie-climat, où on a vraiment inscrit dans le marbre la neutralité carbone, et c'est ce qu'il nous faut pour rester sous les 2 degrés.
Mais pourquoi est-ce que, finalement, on a quand même le sentiment que c'est difficile d'obtenir des gouvernants des actions rapides? François Gemenne, vous le rappelez dans votre atlas de l'Anthropocène, hein, les premiers travaux, les premières alertes, c'est 1972, si on doit marquer une date, allez, parce qu'il y en a eu avant, mais 1972, le rapport Meadows, commandé par le chercheur du MIT, Dennis Meadows, et commandé par le Club de Rome, et donc ce rapport intitulé Halte à la croissance, l'ONU organise le premier sommet de la Terre à Stockholm, un temps quand même perdu depuis les années 70, quasiment 50 ans.
Il est certain qu'on a perdu beaucoup de temps et qu'on peut identifier plusieurs périodes où vraiment on a perdu énormément de temps. Ne serait-ce que les années qui ont précédé l'accord de Paris, et j'ai envie de dire entre 2010 et 2014, là c'était des années perdues. Je pense que si on perd autant de temps, et s'il est si difficile effectivement au gouvernement de mettre en place des politiques, disons un peu radicales, c'est parce que les gouvernements sont encore aujourd'hui trop en train de ménager la chèvre et le chou, en train d'essayer de contenter des intérêts contradictoires, d'un côté de répondre aux objectifs environnementaux qu'ils se sont fixés, mais de l'autre aussi de toujours contenter certains lobbies industriels, de veiller à ménager certains intérêts économiques ou financiers, et malheureusement sur le climat et plus globalement sur l'environnement, si on essaye de contenter tout le monde, si on essaie de ménager la chèvre et le chou, eh bien on n'y arrivera pas parce que ça veut dire qu'on ne décide de rien. Et je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui par rapport au choix collectif qui doit être posé. On se rend compte, et je pense que les mobilisations pour le climat insistent beaucoup sur cet aspect, qu'effectivement l'addition de changements de comportement individuel finalement pèse assez peu lourd dans la balance. Qu'à peu près 25% de nos émissions de gaz à effet de serre sont déterminées par des choix individuels, les 3/4 déterminés par des choix collectifs. Et que donc il faut mettre en place les structures et les politiques qui permettent d'orienter ces choix collectifs. Et c'est effectivement ce qui tarde à venir pour le moment.
Choix collectif, c'est-à-dire c'est la production industrielle, nos économies, la façon de consommer, de production, etc.
Et au-delà de tout, la question des investissements. Aujourd'hui, les investissements dans les énergies fossiles représentent encore 6,5% de la richesse mondiale, du PIB mondial. C'est en augmentation de 10% par rapport à 2015. Tant qu'on continuera à financer de cette manière les énergies fossiles, on ne pourra pas sortir d'une économie carbonée.
Marie Carrega, vous qui êtes donc au cœur de l'ONERC, et l'ONERC qui fait le lien entre le GIEC et le ministère de la Transition, vous le ressentez, le fait que on arrive peut-être à un moment où il faut trancher et ne pas ménager la chèvre et le chou, comme disait François Gemenne.
En fait, je dirais pas qu'on tranche, c'est plutôt qu'il faut dépasser ce clivage, d'y passer cette idée que l'économie d'un côté et l'environnement de l'autre côté, voilà, ça se parle pas, parce que au contraire, ce que nous montrent aussi les rapports du GIEC, c'est que si on ne fait rien, c'est notre économie aussi qui va souffrir. Et tous les rapports montrent aussi que si on agit maintenant, ça coûtera beaucoup moins cher que de payer plus tard les dégâts, en fait. Donc, on a probablement, nous aussi, un peu de pédagogie à faire vis-à-vis de ce secteur économique qui commence à prendre conscience. On a notamment des rapports des assureurs qui commencent à s'inquiéter de la recrudescence des catastrophes naturelles, qui prévoient quand même un doublement des coûts des catastrophes en France d'ici 2050. Et encore, c'était un scénario qui était plutôt pessimiste.
Et donc, ça veut dire qu'on est en train de prévoir des fonds pour assurer les remboursements.
C'est pas qu'ils prévoient des fonds, c'est qu'ils essaient de chiffrer un peu ce que ça pourrait donner, et que concrètement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'actuellement, le système n'est pas viable. Il n'est pas fait, effectivement, pour financer des inondations inondations tous les ans, par exemple. Le système n'a pas été prévu pour ça. Donc, il va falloir réfléchir à ça. Et eux, du coup, ils ont aussi cette réflexion amont, justement, de ne pas se dire on va juste payer des dégâts, mais de voir ce qu'on peut faire en amont. Donc, il faut vraiment dépasser ce clivage économie-environnement.
Je pense qu'il y a un gros clivage parmi les entreprises. Vous avez d'un côté des entreprises qui s'inquiètent des impacts du changement climatique, les assureurs et les rassureurs. Vous avez de l'autre côté des entreprises qui s'inquiètent de l'impact des politiques climatiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Renault-Nissan, premier constructeur automobile mondial, Carrefour, grande chaîne de distribution, Lafarge, numéro 1 du ciment, Total, grosse entreprise pétrolière, tout ça ce sont des entreprises françaises dont le modèle économique va être largement remis en cause par les politiques climatiques. Et donc ça tire d'un côté, ça tire aussi de l'autre. Et en même temps qu'il y a des gens qui effectivement souhaitent accélérer la transition et le changement, il y a énormément de gens qui souhaitent que rien ne se passe ou que si ça se passe, ça se passe le plus lentement possible.
La solution pour vous c'est quoi ?
Trancher.
Mais trancher après, Marie Garriga, c'est pas avec ce mot trancher que vous allez faire bouger les choses, vous, au niveau du ministère de la Transition.
On va dire ça comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est des décisions structurelles. Alors nous, ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est déjà d'avoir en tête, quand on fait n'importe quel investissement à moyen terme, de se dire, déjà de réfléchir, est-ce qu'un climat actuel, il est déjà résilient? Parce que je pense qu'on a déjà des problèmes. À climat actuel, on voit déjà la recrudescence des incendies, la montée du niveau des mers, c'est déjà là. Hein. C'est pas en 2100 le changement climatique, c'est aujourd'hui en France déjà. Donc on a déjà des impacts. Il faut vraiment réfléchir, quand on fait un investissement, de se dire, est-ce qu'il sera résilient à climat futur? Déjà, si on arrive à passer sur cette philosophie de pas rester sur l'instant présent, d'essayer de se propager un peu plus dans le futur, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas.
Le problème, c'est que beaucoup d'acteurs économiques se fichent complètement de la résilience dans le futur. Ils cherchent avant tout le profit à court terme. Pourquoi est-ce que Donald Trump aux États-Unis réinvestit dans le charbon? Il sait bien que le charbon n'est pas une énergie d'avenir, mais il sait par contre que ça va satisfaire quelques mineurs dans certains états clés pour sa prochaine élection. Il sait que ça va rapporter des profits de très court terme. Et beaucoup, malheureusement, je suis désolé de revenir sur la finance, mais beaucoup d'institutions bancaires et financières vont chercher avant tout des profits à très court terme plutôt que des profits long terme. Et ce qui rapporte encore le plus aujourd'hui, à part le commerce d'armes ou la prostitution, ce sont les énergies fossiles.
François Gemène, dans votre atlas de l'Anthropocène, vous expliquez que la politique de lutte contre le réchauffement climatique a pu aussi produire de nouveaux problèmes. Vous pensez à quoi ?
Je pense en particulier aux problèmes d'inégalité. On a bien vu en France, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, qui évidemment dépasse largement cette question, mais qui provient quand même au départ d'un alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, à quel point ce qui était considéré par le gouvernement, je pense, comme une petite mesure technique d'ajustement fiscal, devenait une sorte d'étincelle qui mettait le feu aux poudres de la contestation sociale. Et combien dans beaucoup de pays, toute une série de politiques climatiques ont été considérées comme des politiques un peu d'experts ou des politiques techniques sans prendre en compte leur dimension sociale et politique. Et il y a aujourd'hui une véritable urgence à prendre en compte la dimension sociale et politique des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des mesures d'adaptation qui peuvent, par exemple, favoriser certaines communautés au détriment d'autres. Je pense que ça sera une nouveauté importante du 6e rapport d'évaluation du GIEC qui paraîtra fin 2021, début 2022. C'est en tout cas quelque chose que nous prenons en compte.
Alors justement, ce rapport du GIEC qui, là, est tombé cette semaine depuis Monaco, Marie Carrega, qu'est-ce qu'il nous livre aujourd'hui? C'est donc un volet sur l'océan et la cryosphère. La cryosphère, il faut peut-être préciser que ce sont ces zones où l'eau est solide, c'est-à-dire les glaciers.
Oui, c'est tout ce qui est gelé, en fait. Voilà. Hein, tout ce qui est glacier de montagne, tout ce qui est calotte polaire, donc ça, c'est plutôt le Groenland et l'Antarctique. Et puis le permafrost, donc des sols qui sont gelés depuis des centaines, voire des milliers d'années. Alors effectivement, le bilan n'est pas très positif, malheureusement, ça s'accumule. On sait qu'on a une fonte des glaciers qui continue, qui s'accélère, donc principalement les glaciers de montagne, et ça on le voit typiquement en France, hein, dans les Alpes, on voit bien hein, que les glaciers reculent. On constate aussi un dégel du permafrost, qui est ça qui est plus inquiétant, donc c'est ce sol qui est gelé, parce qu'on sait qu'il contient notamment du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui a une très courte durée de vie, hein, ça c'est bien par rapport au dioxyde de carbone, c'est qu'il s'échappe, il disparaît très vite de l'atmosphère. Par contre, il a un pouvoir réchauffant beaucoup plus élevé. Donc on surveille de près le permafrost. On a une baisse de la couverture neigeuse, hein, ça les stations de ski le voient, même si parfois, de temps en temps, on a une année un peu mieux, il n'empêche que la tendance est à la baisse. Et puis on a une hausse du niveau des mers qui est constatée, donc environ 20 cm au niveau mondial.
La mesure oui, François Gemène. Que provoque la fonte du permafrost. On mesure le pouvoir réchauffant des gaz à effet de serre avec un indice dont l'étalon est le dioxyde de carbone, c'est 1. Le méthane, c'est 23. Ça veut dire que le pouvoir réchauffant du méthane est 23 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Ajoutez à cela que toute une série de virus et de bactéries sont contenus dans le permafrost et donc pourraient être libérés s'ils fondaient. On risque, si le permafrost fond, d'avoir ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, c'est-à-dire un cercle vicieux qui va faire que le réchauffement climatique va finalement s'entretenir par lui tout seul. À mon avis, c'est un des plus gros risques aujourd'hui.
Et donc, montée des eaux, en cascade peut-être, Marie Carrega, toutes les conséquences que ce rapport évoque avant de proposer peut-être enfin des solutions, en tout cas des points à engager très vite.
Oui, parce que dans le système climatique, tout est lié. En fait, les océans ont vraiment un rôle de tampon. Le volume des océans permet justement de stocker cette chaleur. Ils stockent énormément de chaleur, donc c'est vraiment ce qui permet de tempérer quelque part ce réchauffement. Malheureusement, un océan qui se réchauffe, c'est chimique. Quand l'eau est plus chaude, elle prend plus de place. Donc le fait que les océans se réchauffent fait qu'ils montent. On a aussi le problème qu'un océan qui est plus chaud absorbe moins de dioxyde de carbone, donc ils risquent d'en rejeter en fait. Donc tout ça fait des boucles de rétroaction. Si on compte aussi la calotte glaciaire dont on espère qu'elle va pas trop fondre, parce que là pour le coup ça va aussi augmenter le niveau des mers, et puis vous comptez qu'un glacier qui fond, eh bien il renvoie moins de rayonnement solaire, hein, vous avez l'habitude, une surface blanche, ça vous éblouit. C'est ce phénomène tout simple qui contribue aussi à atténuer le réchauffement climatique.
Et puis dans ce rapport aussi, les conséquences directes sur les hommes, sur les populations, les sociétés sont aussi détaillées. Des conséquences sur la pêche, sur l'approvisionnement en eau douce, les transports, les infrastructures, la santé, le tourisme, les loisirs. On sent qu'en cascade, cette situation des océans et de la cryosphère est plus que préoccupante, en sachant qu'on se projette au-delà de 2100, mais que dès 2050, des risques associés à des émissions élevées de gaz à effet de serre seront très très élevés et on atteint peut-être des points de non-retour, hein, Marie Carrega.
Oui, tout à fait. Il y a certaines données pour lesquelles on n'est pas encore tout à fait sûr du seuil d'irréversibilité. Et c'est notamment le cas de la fonte de l'Antarctique. On ne sait pas très bien à quelle température on risque d'avoir des fontes massives. Et là, pour le coup, si l'Antarctique fond, c'est plusieurs mètres d'eau, hein, d'élévation du niveau de la mer. Maintenant, ce n'est pas prévu à court terme. Donc, c'est vrai que
60 mètres, hein, juste pour dire.
60 mètres,
voilà. Mais c'est vrai que c'est un élément qu'on surveille comme l'eau sur le feu, parce qu'on a du mal à savoir exactement quand est-ce qu'on va passer ce seuil d'irréversibilité.
Et alors concernant les secteurs déjà condamnés, parce qu'aujourd'hui il y a des secteurs condamnés à l'échelle planétaire, des zones côtières sur lesquelles déjà il faudrait peut-être d'ailleurs, François Gemène, que les populations soient aidées pour partir plus loin, parce qu'il y a des risques pour leur vie.
Bien sûr, la clé pour cela, je crois, c'est d'anticiper au maximum ces déplacements et de les organiser. On sait qu'aujourd'hui qu'il y a des zones côtières qui seront inondées, certaines régions du monde qui deviendront vraisemblablement incultivables, et donc le choix qui est demandé au gouvernement, qui est un choix cornélien, c'est de décider entre les zones de leur territoire qu'ils vont protéger et celles qu'ils vont en quelque sorte sacrifier, notamment la hausse du niveau des mers. Et donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est commencer à faire reculer, déplacer certaines populations. Le gouvernement indonésien l'a très bien compris, ils ont décidé de déplacer leur capitale Jakarta de l'île de Java vers l'île de Bornéo, parce que Jakarta s'enfonce dans la mer, littéralement. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en l'espace d'un an, c'est un processus qui va prendre plusieurs années, mais le problème avec l'immigration, c'est que nous avons tellement peur d'immigration, les migrants représentent de tels épouvantails dans le débat public, que nous avons toujours des logiques strictement réactives, nous attendons la crise, nous attendons l'urgence humanitaire pour décréter qu'il y a une crise migratoire. En réalité, si nous pouvions anticiper ces migrations et pouvoir en discuter enfin rationnellement pour prendre les décisions qui soient dans l'intérêt des migrants, de leur région d'accueil et de leur région d'origine, les choses se passeraient beaucoup beaucoup mieux et on n'aurait pas besoin d'agiter des chiffres en millions de réfugiés climatiques comme une sorte d'épouvantail. Le drame aujourd'hui, c'est que les gens ont encore plus peur des migrations que du changement climatique lui-même.
Une réaction, Marie Carrega ?
Alors, sans aller jusqu'aux migrations climatiques, parce que derrière le terme, ça veut dire qu'on change de pays quand même, hein, une migration climatique. Ce qu'on va déjà avoir, c'est plutôt des déplacés climatiques, donc c'est-à-dire des gens qui bougent à l'intérieur de leur pays. Parce que quitter son pays, c'est quand même une décision profonde qui, en général, n'est pas que liée au changement climatique. Il y a souvent d'autres raisons, donc c'est aussi difficile d'avoir une idée de combien on pourrait avoir de migrants entre guillemets climatiques. Donc il y a déjà, ne serait-ce que cette idée de déplacer climatique, effectivement des gens qui vont devoir s'installer un peu plus loin. Donc en tout cas, c'est une problématique qu'on gère en France, et on sait très bien par exemple qu'on a 1,5 million de personnes en France qui vivent dans des zones potentiellement à risque de submersion marine. Donc les submersions marines, c'est quand on a une grosse tempête liée avec un fort coefficient de marée, donc un peu du type Xynthia.
C'est ça, sur la côte atlantique.
Voilà, tout à fait. Donc on sait qu'on a 1,5 million de personnes qui sont potentiellement impactées. Après, c'est un risque de une fois tous les 100 ans. Donc on gère, on fait des plans de prévention des risques, on prévient les gens. On fait aussi des choses sur l'urbanisme, parce que des choses toutes bêtes, mais c'est quand on est dans une zone à risque de submersion, il faut avoir un moyen de s'échapper, donc il faut avoir un étage. On a eu beaucoup ce problème-là pour Xynthia, les gens étaient coincés parce qu'ils avaient qu'un rez-de-chaussée. On a aussi eu des problèmes de gens qui tout simplement ne pouvaient pas ouvrir leurs volets, qui étaient électriques, et quand vous êtes inondé, vous n'avez plus d'électricité. Donc c'est des choses toutes bêtes auxquelles il faut penser quand on est dans ces zones-là.
Et aujourd'hui, ça s'est imposé sur ces zones-là ?
Oui, tout à fait. Dans les plans de prévention des risques, vous avez des cartographies, donc soit de zones où on a complètement interdit les habitations, soit des zones où on dit vous pouvez rester, mais il y a
à telles conditions.
Voilà, il y a des travaux à faire.
N'oublions pas les territoires d'outre-mer dans cette affaire. Parmi les risques de submersion importants, il y a énormément de petits territoires insulaires, notamment en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, où là, effectivement, il y a déjà des problèmes de relocalisation de population qui se posent déjà, notamment en Nouvelle-Calédonie.
Alors, pour revenir sur ce thème des migrations, François Gemène, on comprend à travers vos travaux que l'environnement est pour vous le premier facteur de migration, parce que c'est lié aussi à des états difficiles, compliqués dans certaines zones du monde, avec des guerres civiles. Et donc, migration, guerre civile, guerre du climat, risque majeur. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3, c'était le 25 février 2017, un reportage tourné dans la Corne de l'Afrique où 20 millions de personnes sont menacées de famine.
Une décharge à ciel ouvert, devenue source d'approvisionnement pour ces Sud-Soudanais. Dans ce pays en guerre, la nourriture se fait rare, alors le moindre reste d'aliments fait office de repas.
Pour manger, ils cherchent des vieux légumes comme celui-ci. Et ce petit bout de salade, ils vont le mettre dans un sac pour le faire bouillir et le manger. Et demain, ils reviendront et recommenceront.
Le Soudan fait partie des quatre pays déclarés en insécurité alimentaire cette semaine. Parmi les principales victimes, les enfants. 1 400 000 seraient menacés dans ces pays. Ils sont 500 000 au Nigeria, 200 000 au Yémen, 200 000 en Somalie et 500 000 au Soudan du Sud. Des pays pour la plupart pétroliers qui n'ont pas développé suffisamment leur agriculture. Un contexte défavorable sur lequel sont venus se greffer des conflits sanglants.
Quand on fait la guerre, on récolte pas. On sème pas et on récolte pas. Il n'y a plus d'État, il n'y a pas de propriété vraiment suffisamment claire, etc. Et donc, dès qu'il y a un incident climatique en plus, parce que c'est aussi des pays qui commencent à souffrir très sérieusement du réchauffement de la planète, ben voilà, c'est les pénuries.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
François Gemène, c'est cette nouvelle géographie qui se dessine avec le réchauffement climatique. De nouvelles frontières vont être définies. Et il faut effectivement se dire que le réchauffement climatique ajoute dans des secteurs sous tension et provoque aussi cette migration qui, là, pour le coup, peut être massive. C'est plus un déplacement, c'est une vraie migration.
Bien entendu, je crois qu'un problème qu'on a encore, vu d'une perspective française ou occidentale, c'est qu'on a tendance à compartimenter ou à catégoriser les problèmes et notamment les raisons des migrations. On va distinguer très nettement les réfugiés politiques d'un côté, ce sont les bons qu'on va accueillir, les migrants économiques de l'autre, ça ce sont les mauvais qu'on peut laisser périr en mer ou qu'on va renvoyer chez eux. Et puis alors, à côté, c'est comme si on avait une sorte de troisième nouvelle catégorie, les migrants ou réfugiés climatiques, et on pense là plutôt aux habitants des petits états insulaires qui devraient fuir la hausse du niveau des mers. La réalité, comme on l'entendait très bien dans le reportage, au Soudan du Sud, c'est que le changement climatique va avoir une énorme influence sur les facteurs politiques et économiques de migration. Quand on sait qu'en Afrique subsaharienne, environ la moitié des ménages dépend directement de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus, ça veut dire que toute variation de la température ou de la pluviométrie va avoir une conséquence directe sur les revenus économiques des ménages. Vous et moi, notre fiche de paye ne change pas à la fin du mois, ne dépend pas de la météo qu'il a fait, mais pour la plupart des gens sur la planète, l'économie et l'environnement, c'est la même chose. Leurs ressources économiques dépendent directement de l'environnement. Et on voit aussi, notamment au Soudan du Sud ou dans beaucoup de régions d'Afrique de l'Est, à quel point il va y avoir des conflits pour les terres ou des conflits pour les ressources alimentaires et combien finalement une série de conflits en Somalie ou au Soudan du Sud sont liées aussi à des raisons environnementales. Aujourd'hui, on ne peut plus compartimenter les raisons de migration comme on le faisait, ni même les causes de conflits. Il faut comprendre que le changement climatique va avoir une influence considérable sur des facteurs politiques et économiques de migration et de conflit.
François Gemène, alors on voit des propositions qui fleurissent, par exemple cette semaine, le financement des risques et la prise en charge pécuniaire, comme annoncé par le programme des Nations Unies pour le développement face aux risques climatiques. On voit bien qu'il y a un verdissement des propositions dans chaque parti politique, on parle de la sortie du capitalisme et du néolibéralisme, ou alors à l'inverse de s'appuyer totalement sur la technologie, les innovations de demain. Vous, le programme que vous aimeriez soumettre aux hommes politiques, ce serait quoi ?
C'est compliqué. Je dirais que je me réjouis d'abord qu'en fait il y ait ces positions contradictoires dans le débat public. Je pense que c'est le signe qu'aujourd'hui les questions d'environnement sont véritablement entrées de plein pied comme sujet politique dans le débat public, alors que pendant longtemps on l'a considéré comme un sujet un peu accessoire, technique ou réservé à une expertise scientifique. Aujourd'hui on voit, parce que c'est un vrai sujet politique, et j'ai l'impression qu'on est sorti d'une logique de l'incantation où tout le monde disait il faut sauver le climat, il faut sauver la Terre, pour arriver à un moment où on se rend compte des vrais choix collectifs qui vont devoir être posés. Et donc, logiquement, en démocratie, on a un débat contradictoire entre ceux qui veulent sortir du capitalisme, ceux qui pensent qu'il est possible d'agir à l'intérieur du capitalisme, ceux qui pensent que la technologie va apporter un certain nombre de solutions, d'autres qui pensent que la technologie est une fausse solution. Et donc, il est logique que tout ça soit débattu. Le problème, c'est qu'elles sont aujourd'hui considérées en termes vraiment antagonistes. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'antagonisme de plus en plus marqué dans la société entre ceux qui soutiennent Greta Thunberg et ceux qui tentent de la décrédibiliser, parfois d'ailleurs de façon assez ignoble. Une résurgence de ceux qui refusent de croire ou d'accepter la réalité du changement climatique parce qu'ils refusent de changer. Et je dirais que dans cette logique très antagoniste, j'ai l'impression qu'on ne va pas véritablement arriver à avoir un débat posé pour avoir un choix de société collectif sur ce qu'il faut faire. Et donc, ce qui me paraît prioritaire, c'est, comme je le dis, de relancer la coopération internationale et d'autre part d'avoir une certaine forme de consensus social sur les choix collectifs à poser et de s'y engager pour de bon.
Marie Carrega, est-ce qu'au niveau du ministère de la Transition écologique en France, on en est là dans ces discussions, c'est-à-dire de penser justement les oppositions, de regarder peut-être avec appréhension ces secteurs qui se montent les uns contre les autres et puis d'essayer de chercher le consensus et la solution avec une gouvernance commune?
Écoutez, moi ça fait 15 ans que je suis au ministère, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je fais ça en fait. On n'a jamais nous travaillé de notre côté, on a toujours fait des consultations publiques larges, on a toujours écouté les ONG d'un côté, les industries de l'autre. Enfin je veux dire, on a le Grenelle de l'environnement qui était un moment fort pour nous, et on garde ce modèle. Nous, à chaque fois on parle des 5 collèges de l'environnement qu'on retrouve, du Grenelle de l'environnement qu'on retrouve dans tous nos comités. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours fait nous au sein du ministère de l'environnement. Et c'est, on va avoir là l'aboutissement avec la conférence citoyenne, où là vraiment on va donner les chiffres aux citoyens, à vous, à moi, à 150 personnes tirées au sort. On va leur dire voilà la situation et vous concrètement qu'est-ce que vous proposez. Donc on est vraiment, je pense, à l'aboutissement de cette idée d'avoir un consensus sur ce qu'il faut faire.
Même en compte le travail qui est fait au sein du ministère, mais le problème c'est que vous changez de ministre tellement souvent qu'on a l'impression que ces dossiers ne sont pas véritablement portés politiquement dans l'espace public.
Oui, c'est-à-dire que vous, Marie Carrega, vous y êtes depuis 15 ans, d'autres y sont depuis moins longtemps.
Beaucoup de ministres peuvent dire la même chose que vous.
Et ces 15 ans, mine de rien, même si on cherche ce consensus, on peut se dire, ben voilà, 15 ans sont passés et maintenant il faut vraiment, comme le proposait François Gemène, est-ce que le temps de l'action plus rapide, plus efficace, il y a aussi cette prise de conscience, on suppose, dans vos services.
Ministère de l'Environnement, vous avez vraiment des gens qui sont motivés et c'est vraiment, pour moi, c'est le ministère de l'intérêt général. S'il y en avait qu'un, ce serait celui-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui motive les personnes qui travaillent au ministère et qui assurent la continuité de l'action de l'État, de toute façon. Après, on est plus ou moins entendu selon les périodes. Et c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on est plus entendu, ça ne peut que nous aider à porter nos dossiers. Mais c'est vraiment des choses qu'on porte depuis longtemps. Et franchement, je pense qu'on n'a pas à rougir de notre action.
Et en travaillant main dans la main avec le ministère de l'Économie, le ministère de l'Agriculture
Oui. Moi, je porte le plan national d'adaptation au changement climatique et il concerne 12 ministères du gouvernement. Donc, c'est vraiment pas des actions qu'on peut porter seul. De toute façon, ça ne ferait pas sens qu'on les porte seul.
Un conseil quand François même, que je donnerais à un homme ou une femme politique, accepter de perdre la prochaine élection. engager des mesures de long terme, quitte à ce qu'elles soient impopulaires, quitte à ce qu'elles vous coûtent une élection, mais c'est ce que l'histoire retiendra de vous. Certains des plus grandes figures politiques, De Gaulle ou Churchill, ont lamentablement perdu les élections dans leur pays.
François Gemène parlait de Greta Thunberg et de l'action de ces jeunes. Quel regard vous posez-vous sur justement ces mouvements-là? C'est vrai que ces jeunes gens essuient beaucoup aussi d'attaques, de critiques, oui, mais posent de vraies questions. Marie Carraga, votre regard?
Moi, je suis ravie de voir qu'il y a la génération derrière qui pousse. Parce que, une fois de plus, moi, ça fait 15 ans que je le fais. Donc, je suis ravie de voir que ça commence à prendre parce que le développement durable dans les écoles, on en fait depuis longtemps en France. Hein. Mine de rien, on n'a pas attendu les grèves pour le faire. Ça fait partie du programme des écoles depuis le CP déjà. Hein. Donc, il y a une éducation au développement durable en France avec des choses assez basiques, hein, avoir un potager dans une école, mais mine de rien, rappeler aux enfants que il faut mettre les doigts dans la terre, que c'est pas sale, qu'un ver de terre, c'est très bien. C'est des choses très concrètes. Et ça commence par là parce que ça titille l'enfant qui garde ça en tête et qui après questionne ses parents. Et ça, c'est bien aussi que l'enfant challenge ses parents en se disant, on prend la voiture, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre la voiture pour faire un kilomètre? Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter des choses qui viennent de très très loin et qu'on a acheté sur Internet? Donc pour nous, c'est très bien de voir que la relève est là. Et malheureusement, ce sera pas forcément que leur génération, parce qu'on se dit un peu, la relève est là, mais c'est parce que ce seront eux qui seront impactés. Il faut que les adultes comprennent que eux-mêmes vont être impactés.
Et oui, parce que si on reprend le rapport du GIEC, à partir de 2050 environ, les risques associés à des émissions élevés de gaz à effet de serre seront très élevés. Ce sont vraiment les générations d'après qui récupèrent ce lourd fardeau. François Gemène.
Moi, je porte sur ces mobilisations un regard honteux et embarrassé. Honteux que ma génération, c'est-à-dire celle qui est venue juste avant eux, n'ait pas été capable de faire ça. Et je me dis, si les jeunes de ma génération avaient été capables de faire ça, peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui, peut-être que nous n'aurions pas perdu 20 ans. Et cette honte et cet embarras est décuplé lorsque je vois des hommes blancs de la génération qui était là encore avant d'une soixantaine d'années, qui aujourd'hui tentent de décrédibiliser les messagers, comme je le disais souvent, de façon ignoble.
Ces attaques, pour vous, elles viennent d'où et elles disent quoi?
Elles viennent d'une incapacité à reconnaître l'importance du message et les choix collectifs qu'il implique. Et donc, c'est certain que la manière la plus facile d'attaquer le message, c'est d'attaquer le messager, que ce soit Greta Thunberg, les jeunes ou le GIEC, qui aussi a fait l'objet de beaucoup d'attaques. Et je crois que le meilleur service que l'on puisse rendre à ces jeunes, c'est d'écouter leur message et aussi potentiellement de discuter de ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Greta Thunberg, par exemple. Je ne suis pas sûr que le procès intenté, ou plutôt la plainte intentée au 5 États soit une très bonne idée, mais je pense que le meilleur service qu'on puisse leur rendre, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire et de porter ça dans le débat public et d'en débattre ensemble.
Marie Carraga, on va écouter votre choix musical. Vous avez choisi
Aux armes citoyennes de Zazie.
Et il y a une raison particulière?
Oui, parce que c'est une chanson de 2001 qui malheureusement est toujours d'actualité.
À ceux qui pensent qu'Ève est seulement une moitié d'Adam, à ceux qui disent qu'elle est la mère de tous les vices, à ceux qui se permettent d'être le seul maître après Dieu, à ceux qui rient, à celles qui pleurent, à ceux qui vont libre comme l'air, à celles qui se tairent, à ceux qui ont le droit de dire elles de se taire, à ceux
aux hommes qui nous aiment.
les Asies aux armes citoyennes. Le choix musical de Marie Carrega, ingénieure environnement de formation, adjointe au secrétaire général de l'ONERC, l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Et puis François Gemaine, chercheur, professeur à Sciences Po, à l'Université de Liège, également à l'Université libre de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'Observatoire sur le climat et la défense et donc co-auteur de l'Atlas de l'Anthropocène paru aux presses de Sciences Po. Alors Marie Carrega, le rapport du GIEC propose quand même des solutions. C'est vrai que les scientifiques ne font pas juste ce travail de science, hein, d'information, d'état des lieux et de prospection et de projection aussi. Mais aujourd'hui, ils disent ce qu'il faudrait faire.
Oui, leur exercice va toujours jusqu'aux solutions pour essayer de voir quelle trajectoire socio-économique serait possible et serait acceptable. Assez récemment, ils ont rajouté ce critère d'acceptabilité dans leurs travaux. Donc, c'est ce qu'on a vu notamment dans le rapport de l'année dernière sur le réchauffement d'1,5 degré. Donc là, concrètement, leurs conclusions sont toujours, on va dire, les mêmes. La science ne change pas. C'est que la première chose à faire, c'est d'arriver à la neutralité carbone. Et tous les rapports du GIEC se concluent comme ça. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à limiter nos émissions de gaz à effet de serre, on pourra faire ce qu'on veut pour essayer de se protéger. La nature, elle nous rattrapera toujours, de toute façon. Donc c'est vraiment la première chose à faire, c'est d'arriver à neutralité carbone, c'est-à-dire ne pas émettre plus que ce que la nature est capable d'emmagasiner. Et donc ça veut dire concrètement laisser les énergies fossiles là où elles sont.
François Gemaine.
Dans l'Atlas de l'Anthropocène, on essaie de montrer la dimension vraiment systémique de ce qu'on appelait les différentes crises environnementales, qui en réalité ne sont pas tellement des crises, puisqu'une crise suppute qu'elle soit éphémère et donc qu'elle soit réversible. La plupart des dommages que nous infligeons à la planète sont malheureusement irréversibles. Mais par contre, nous essayons d'expliquer aussi les causes, et comme tous ces dommages ont des causes profondément sociales, économiques et politiques, ce sont autant de leviers d'action. Et donc, j'ai envie de dire qu'en termes de solutions, on a jusqu'ici beaucoup parlé aux gens comme s'ils étaient des consommateurs, c'est-à-dire ce qu'ils pouvaient changer par leur choix individuel de consommation. Je pense qu'il est temps de leur en parler désormais comme à des citoyens, c'est-à-dire de se réapproprier aussi cette question des choix collectifs. Souvent, j'entends des gens qui me disent « oui, mais tout ça, c'est décidé par des multinationales ou par des gros gouvernements ou par Trump, etc., ou par la Chine. Et nous, on n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ?» J'ai envie de dire, c'est dramatique de se sentir à ce point consommateur et tellement peu citoyen. Quand on est français, quand on est française, on fait quand même partie d'un pays qui compte encore, malgré tout, sur la scène internationale, qui dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité, qui possède parmi ses entreprises certaines des multinationales les plus polluantes du monde. Et donc, il y a toute une série de choses à faire au moyen de l'action collective, au moyen du bulletin de vote, mais aussi au moyen des marches pour le climat, des actions de désobéissance civile ou des grèves pour le climat. Et je pense qu'il faut que les citoyens se réapproprient aussi ces moyens d'action collective et réfléchissent au climat comme à un problème politique en tant que citoyen. J'ai l'impression que c'est l'ère dans laquelle nous entrons, mais c'est aussi une période charnière où toute une série d'antagonismes et d'oppositions vont évidemment se manifester.
On peut aussi se souvenir, François Gemaine, du moment où il y a eu une véritable coopération internationale au moment du trou de la couche d'ozone, les fameux CFC posaient problème, mais il y avait un problème immédiat de santé, et donc peut-être pas les mêmes enjeux économiques par rapport aux énergies fossiles, mais là, on a trouvé les moyens d'agir vite et bien.
Je pense qu'il faut se souvenir aussi qu'on en était capable. Je dirais que entre 1986 et 1994, un peu moins de 10 ans, il y a eu une sorte d'âge d'or de la coopération internationale où on crée le GIEC, on règle le protocole de Montréal sur la couche d'ozone, on fait le sommet de la Terre à Rio qui prend toute une série de grandes conventions internationales, notamment sur le climat. Nous en avons été capables dans le passé. Il faut trouver le moyen d'en être encore capable à nouveau.
Merci à tous les deux. Je recommande donc votre Atlas de l'Anthropocène, François Gemaine, paru auprès de Sciences Po. Livres et liens aussi vers l'ONERC et le GIEC seront sur notre site. Merci Marie Carrega d'être venue dans l'émission. Et je précise que le journal Le 1, d'ailleurs, fait son dernier numéro sur le climat et les fake news. Et puis, tout de suite, eh bien, on continue notre émission. Introspection, l'environnement, direction l'œil du monde planète. Et nous prenons la direction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média dans l'actualité qui touche à l'environnement. Coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Et aujourd'hui, l'œil du monde Planète n'est autre que Simon Roger, rédacteur en chef des pages Planète du journal Le Monde. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors, c'est l'Amazonie qui a retenu votre attention et qui a d'ailleurs encore rythmé notre actualité de semaine. Hein. Donc, votre choix s'est porté sur l'article d'un de vos correspondants sur place. Il s'agit de Bruno Meyerfeld.
Oui, tout à fait. Bruno Meyerfeld est le nouveau correspondant du journal au Brésil. Et pour le coup, on vous propose une plongée dans la forêt de Bom Futuro, de Bon Futur. Tout un programme, car la forêt dont on va vous parler a un futur plutôt condamné qu'un futur heureux. Ça se passe dans l'état de Rondônia. Donc, on est dans le centre-ouest du Brésil, état frontalier avec la Bolivie, donc, et un des points les plus névralgiques pour ce qui est des feux de forêt qui ravagent le Brésil depuis maintenant plusieurs semaines. Et pour le coup, Bruno Meyerfeld est parti avec un photographe dans cette région un peu compliquée d'accès d'ailleurs. Et en fait, il raconte notamment cette forêt qui, il y a à peu près 15-20 ans, avait à peu près 280 000 hectares de superficie. On a aujourd'hui à peu près 100 000. Donc, elle a été grignotée ou, on pourrait presque dire, en fait, dévorée au fur et à mesure par la déforestation. Et il fait aussi une halte dans la ville d'à côté, qui est une ville qui s'est forgée un peu de toutes pièces, qui s'appelle Rio Pardo, une ville de 10 000 habitants, dans une ambiance un peu western. Déjà, tout simplement, il y a les feux de forêt qui sont tout autour de la ville et qui créent cette ambiance un peu particulière et cette odeur âcre qui colle un peu aux vêtements et aux personnages qui passent. Et puis, il y a aussi toute cette population avec à la fois des bûcherons qui travaillent dans toute illégalité, des nouveaux colons qui ont du mal à trouver leur place dans cette partie du Brésil. Les forces de l'IBAMA. L'IBAMA, c'est l'agence qui est chargée de la préservation de l'environnement au Brésil et qui a bien du mal à se faire respecter dans cette partie du pays. Donc, il y a tout ce décor et au-delà du décor, il y a les questions que pose la problématique de la déforestation au Brésil. On parle beaucoup et on a beaucoup parlé de l'appel d'air qu'a provoqué Bolsonaro en lançant un peu un appel au défrichage des dernières parcelles préservées en Amazonie. Mais en fait, le reporter raconte aussi que Lula, bien avant lui, avait déjà créé un appel d'air en quelque sorte en donnant un peu les clés de la forêt à des nouveaux agriculteurs en disant voilà, on a besoin de centrales hydroélectriques et pour ça, il faut faire place nette. Donc, il faut des surfaces un peu qui soient dégagées. Donc, on vous laisse exploiter la forêt. Donc, c'est un peu tout ce décor que raconte Bruno Meyerfeld dans son papier. Et derrière ça, une problématique qui est vraiment intéressante pour le coup, je trouve, qui est celle de la sorte de mécanique d'économie particulière à la forêt amazonienne, avec d'un côté donc les bûcherons qui interviennent les premiers et qui donc commencent par piller les espèces de bois précieux, puis ensuite la partie où on arrase totalement les sols de la forêt, et puis ensuite un travail de cadastre qui se fait là encore de manière très très illégale avec donc des géographes, des banquiers, des avocats et qui donc redimensionnent les parcelles et puis après les revendent ou les cèdent à des agriculteurs qui sont des agriculteurs très pauvres et qui, eux, vont soit faire des activités de pâturage ou d'agriculture et donc finir malheureusement ce travail d'appauvrissement des terres de la forêt amazonienne.
Et alors, votre correspondant, Simon Roger, a également recueilli la parole des Indiens. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quel rôle veulent-ils jouer aujourd'hui?
Alors, pour le coup, les Indiens, et ce qui est intéressant d'ailleurs, pas seulement les Indiens, mais c'était tous les acteurs rencontrés par Bruno Meyerfeld et par le photographe Avner, ne parle pratiquement pas de biodiversité, de préservation des espèces, de la forêt. Il parle de questions plutôt de foncières, de démarcation des terres, de limitation des terrains. Et ça, c'est tout à fait au cœur du discours des Indiens, en tout cas des Indiens de cette région. Et d'ailleurs, si on se souvient bien des figures indiennes qu'on connaît assez bien, comme le cacique Raoni qu'on avait interviewé début septembre dans le journal Le Monde, parle de cette thématique, c'est-à-dire, on veut surtout peser dans les décisions, c'est-à-dire deux choses, c'est-à-dire s'engager en politique pour certains. Ça, pour le coup, c'est pas du tout le discours du cacique Raoni. Raoni est plutôt, donc lui, c'est une autre communauté, donc les Kayapo. Lui est plutôt sur une thématique de « il nous faut de l'argent ». Je me rappelle qu'il disait dans l'entretien, dans ce monde de blanc qui est maintenant le nôtre aujourd'hui, on a besoin d'argent. L'Indien, à cause de vous, a besoin d'argent. Et il y a derrière ça la question foncière, donc la question des terres qui est cruciale au Brésil depuis fort longtemps et qui maintenant prend une dimension nouvelle puisque l'une des premières mesures du président Bolsonaro lors de son accession au pouvoir, c'était de récupérer cette compétence qui est très importante, qui était celle de la démarcation des terres, qui était initialement allouée à une fondation de l'Indien, et qui est maintenant une compétence du ministère de l'Agriculture au Brésil.
Dernier point rapidement, Simon Roger, quelle est l'image du président Macron et de la France là-bas?
Alors là, c'est aussi une surprise, en tout cas un des aspects intéressants du reportage de Bruno Meyerfeld. Macron et le président français ont une très très mauvaise presse, en tout cas dans cette région et dans ce coin-là de Bom Futuro au Brésil. On considère qu'il est un peu donneur de leçons et il y a le discours derrière de Bolsonaro, puisqu'il y a une crise diplomatique entre les deux pays. On est en plus dans un coin du Brésil qui a voté à 95% pour Bolsonaro aux dernières élections. Et puis il y a tout le contexte international qui est le nôtre aussi aujourd'hui. Hein, en début de semaine, on se rappelle qu'il y avait le sommet climat de l'ONU. Et en marge du sommet, il y avait une réunion de différents États régionaux de l'Amazonie. Tous les États, sauf le Brésil, qui a permis quand même de dégager 500 millions de dollars pour participer à la reforestation. Donc on est à la fois dans une histoire très locale, cette forêt ravagée de Bamfuturo, et dans la dimension globale que posent nos problématiques environnementales.
Eh bien merci Simon Roger. Cet article donc est à retrouver, l'article de Bruno Meyerfeld à retrouver sur le site du monde.fr, sur notre site d'émission également franceculture.fr, et puis après l'Amazonie, retour en France tout de suite sur le front de l'environnement avec l'Escale verte qui nous emmène du côté du Vercors.
Nous sommes ici sur un site assez extraordinaire puisqu'il s'agit d'un ensemble de 500 hectares. Vous avez à la fois de la forêt, vous avez des prairies, vous avez des falaises, donc une grande diversité, une grande variété. Et ce site est une chasse privée et qui se trouve être en vente actuellement. À l'ASPAS, on a décidé de tenter de rassembler les fonds pour acquérir ce territoire. Bien entendu, à terme, ce territoire sera rendu en quelque sorte au monde sauvage. Ça n'empêchera pas l'homme contemplatif de s'y promener, mais on laisse la nature s'épanouir librement. Évoluer librement, c'est le principe de naturalité. C'est-à-dire que la forêt, les arbres vont continuer à pousser comme ils le voudront. Il pourra y avoir des arbres morts, il y aura une diversité qui sera maximale, l'abondance pourra être mise en place. Et tout ce qu'on ne connaît pas encore, parce que cette nature qui va suivre sa libre évolution, elle va nous réserver sans aucun doute des surprises.
L'Escale verte. Chaque semaine, nous partons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires, des actions positives ou négatives, et avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction le Vercors, à la découverte d'une réserve de vie sauvage à sauvegarder. Bonjour Marc Giraud.
Bonjour.
Vous êtes naturaliste de terrain, écrivain, photographe, on peut dire aussi, vous faites beaucoup de choses. Votre dernier livre s'intitule « Le bonheur est dans la nature », un livre paru chez Delachaux et Niesley, et vous êtes porte-parole de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, une association qui tente donc de racheter un domaine naturel pour en faire un espace de vie sauvage. De quoi s'agit-il précisément ?
Mais c'est une des rares choses positives qu'on puisse faire aujourd'hui pour la nature. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Les gens sont désespérés. Et là, ça redonne foi. On a entendu mon ami Gilbert Cochet tout à l'heure, qui a fait un livre qui s'appelle « Réensauvageons la France », qui montre qu'il y a plein de choses en perspective qui sont vraiment réjouissante, quoi. Donc nous, ce qu'on fait, on est une association entièrement indépendante financièrement, donc on fait des appels à dons, évidemment, et on achète des super beaux morceaux de nature. On redonne à la nature ses possibilités d'évoluer, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'État ne fait plus son boulot. Il n'y a plus d'espace vraiment protégé. On peut chasser, on peut couper du bois dans la plupart des réserves et des parcs. Donc la vraie protection, c'est moins de 1% du territoire aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait, on est un mouvement citoyen, bénévole, et on agit pour redonner à la nature un petit peu d'espace.
Mais alors Marc Giraud, pourquoi l'État ne fait plus ce travail ?
Ça, c'est la pression des différents lobbies. Alors, il y a le lobby des armes et de la chasse, évidemment, et les pressions agricoles. Même, on a vu récemment, jusqu'au cœur des parcs nationaux, il y a des éleveurs anti-loups qui voudraient flinguer les loups. Le cœur des parcs, c'est 0,66% de notre territoire. Donc vraiment, si la nature n'a pas sa place là, elle ne l'a nulle part. Donc le loup est une espèce protégée, on veut la flinguer. Ce sont des espaces protégés, on veut les dénaturer. Et finalement, nous, citoyens, on se bat pour préserver une vraie nature.
Alors, en quoi ces espaces, justement, que vous essayez de préserver avec l'ASPAS, en précisant qu'il y a déjà trois lieux que vous avez pu sauvegarder, ces réserves de vie sauvage, le Grand Barry, les deux lacs, le Trégor, qui se situent où précisément ces trois lieux-là ?
Le Trégor est en Bretagne. Les deux autres, le Grand Barry et les deux lacs, sont dans la Drôme. C'est aussi, il y a de la moyenne montagne, il y a des lacs, il y a des castors, il y a des genettes, il y a des animaux assez rares. Et il y a même la nature banale qu'on aime tant, avec les renards, avec les chevreuils, les chamois, tout ça. Ce sont des espaces tous de libre naturalité. Ça, c'est un truc qui fait très peur quand on les crée. Les gens autour ont l'impression que tout va pulluler. D'autres nous parlent de nature sous cloche, mais la nature ne peut pas être sous cloche puisqu'elle évolue. Donc, on laisse simplement faire les choses.
Donc, sans destruction, sans exploitation mercantile, la nature reprend ses droits, mais les promeneurs peuvent venir dans ces lieux-là.
Mais bien sûr, et on est tellement bien, si vous alliez dans le Vercors comme c'est beau, ce sont des montagnes en plus, il y a un grand ciel pur, immense, il y a des vautours qui planent au-dessus de vos têtes, en ce moment le soir, vous entendez bramer le cerf, vous êtes bien dans ces espaces. Et nous-mêmes, humains, nous avons besoin d'une vraie nature. Plus la nature est préservée et plus elle nous rend heureux. Donc vraiment, on fait pas ça pour nous en plus, on fait vraiment ça pour les générations futures. On le fait évidemment, mais on le fait aussi pour la nature. La nature, il faut bien une voie pour la défendre aujourd'hui. Et autant le mouvement de réensauvagement, de rewilding est important dans d'autres pays, autant en France, il est complètement au point mort. Donc nous, on prend les choses à bras le corps et on y va.
Alors le Vercors, ce projet-là, concrètement, vous n'avez pas encore la somme pour acquérir ce qui était quoi, un immense domaine de chasse, c'est ça ?
Le Vercors, c'était un domaine de chasse, donc ça nous réjouit de le voler aux chasseurs, entre guillemets, pour en faire un espace de liberté et de sérénité. Et nous avons encore besoin d'argent, hein. C'était 2,5 millions quand même. Donc on a eu plus de 6 000, presque 7 000 contributeurs. On est presque au bout, il nous manque encore 200 000 euros. Ça paraît énorme, mais finalement, c'est pas grand-chose. Donc on a vraiment besoin, chaque don compte, hein, 3 euros, 10 euros, 15 euros compte. Maintenant, si vous voulez donner 10 000 euros, vous êtes les bienvenus. Mais on est vraiment si près du but que ça serait dommage de pas réussir, et on va réussir.
Vous avez combien de temps ?
On a fait l'important, c'est-à-dire de résilier le bail de chasse. Donc déjà, on a libéré le terrain et maintenant, évidemment, plus ça ira vite, plus on aura de chance parce qu'il y a des donateurs qui nous donnent des délais. Donc il faut pas qu'on tarde non plus, quoi. Voilà.
Donc ensuite, ces lieux-là, ces espaces, dites-nous, en quoi sont-ils indispensables à nos sociétés et comment est-ce que ensuite ils sont gérés ?
Alors notre gestion, le principe de gestion, c'est la non-gestion justement. On ne fait rien. Ça peut étonner, mais ça existe un peu partout. C'est la nature naturelle, si vous voulez. C'est presque un pléonasme, mais c'est vrai. On laisse la nature tranquille. Quand un arbre qui meurt, on le laisse mourir. Il y a les coléoptères qui viennent se nourrir et dégrader le bois, et tout le cycle de la forêt reprend. C'est pas nettoyé entre guillemets, si vous voulez. Donc c'est très 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 riche.
Par contre, c'est arpenté, on imagine, par les chercheurs, les scientifiques et les promeneurs. Alors.
Très doucement, on fait pas trop de pub. Bien sûr, tout le monde est bienvenu. Il y a des naturalistes qui font des comptages. Il y a des caméras pièges pour montrer qu'un loup est passé par là, par exemple. Ça, on va pas dire où, évidemment. Mais donc, il y a vraiment de la vraie... Puisqu'il y a beaucoup d'animaux, il y a aussi des prédateurs. Il y a une vraie vie qui se réinstalle. Et depuis le Grand Barry, notre première réserve en 2012, qui a été parrainée par Jacques Perrin, on a vu la richesse qui revenait à grands pas. Il y a une résilience de la nature incroyable. Dès qu'on la laisse tranquille, elle revient. Et ça, c'est un laboratoire aussi, par exemple, face au réchauffement climatique, parce qu'on laisse la nature se débrouiller toute seule et trouver elle-même les réponses au bouleversement. Et ça aussi, c'est très intéressant pour tout le monde.
Allez, avant de se quitter, Marc Giraud, faites-nous juste partager une petite histoire, une petite rencontre peut-être entre vous et la nature sur ce lieu-là.
Alors, c'est tout bête, c'est les vautours. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai été surplombé par une vingtaine de vautours fauves. Mais comme j'étais en sommet, je dirais pas qu'ils me rasaient la tête, mais ils passaient comme ça les uns derrière les autres comme une brigade. Ce sont des animaux très, très impressionnants. Et c'était vraiment magnifique. Il y avait un silence royal. C'était la paix. J'étais seul dans l'univers, si vous voulez. C'est vraiment des grands, grands moments.
Bon, pour en savoir plus, on renvoie sur le site de l'ASPAS, A-S-P-A-S, ce sera aussi mentionné sur le site de l'émission. Merci Marc Giraud.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Merci à vous, et donc franceculture.fr, où vous pouvez retrouver informations, bibliographies, les liens, télécharger l'émission, la réécouter selon vos envies. Puis vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur la page Facebook. Dimanche prochain, en compagnie du sociologue Yann Lelanne et de Côme Girsching, qui est l'étudiant qui a été le représentant de la France au sommet de la jeunesse pour le climat à New York. Nous partirons dans une analyse en profondeur du mouvement des jeunes dans le monde, un mouvement qui rassemble bien au-delà de leur génération, et nous porterons notre regard aussi sur les coulisses de l'ONU. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'éducation, bien sûr, et Être et Savoir, l'émission de Louise Touré.